BFM Business, BFM Bourse, les pros des cryptos.
L'avenir est l'endroit où l'on passera tous le restant de nos jours. Et figurez-vous que la blockchain en contient une fraction. Ça tombe bien, on parle blockchain et crypto-monnaie chaque vendredi sur BFM Business. Grâce à nos trois spécialistes, Xavier Fenot toujours avec nous, Owen Simonin qui vient de nous rejoindre, alias Asher, et sa chaîne
Bonjour.
YouTube. Bonjour Owen, bienvenue. Sa société Just Mining également qui vous accompagne. Et puis Claire Balva, comme chaque vendredi en plateau. Bonjour Claire.
Bonjour.
On est ravis aussi de vous retrouver, cofondatrice de Blockchain Partner, directrice blockchain et crypto chez KPMG France. On pousse tous, vous poussez tous. Un grand ouf de soulagement, peut-être aujourd'hui, après le flash crash du 7 septembre, ça va mieux quand même là sur les crypto-monnaies. Le flash crash était visiblement lié à pas mal de liquidations. Xavier, êtes-vous du coup toujours optimiste pour la suite sur l'évolution à venir des cours des crypto-monnaies ?
Oui, toujours optimiste, mais pas euphorique. C'est vrai qu'on a vécu quand même ce 7 septembre des positions qui sont liquidées, comme vous l'avez dit. 3 milliards quand même de dollars de positions qui ont été liquidées. En fait, ce sont des positions qui sont clôturées par le broker pour cause d'appel de marge. En fait, pour faire simple, admettons, Guillaume, vous avez 1 euro à investir sur les cryptos, sauf que vous voulez que ça aille plus vite par appât du gain ou autre, et vous voulez vous engager plutôt sur 5 000, 10 000, peut-être même 20 000 euros. Donc, c'est ce qu'on appelle finalement l'effet de levier. Donc, quand tout va bien, ça va. Sauf que quand ça commence un petit peu à corriger, ça peut aller 20 fois plus vite. Donc, sachant d'ailleurs que c'est toujours très volatile sur les cryptos. Et le broker ne va pas attendre finalement que cette position aille à moins 20 000 euros pour couper la position à votre place. Mais il va le faire bien avant que vous perdiez vos 1 000 euros investis. Et du coup, quand le marché corrige un petit peu, ça entraîne ce qu'on appelle des liquidations, donc des ordres de vente sur le marché qui déclenchent la liquidation de votre voisin qui lui aussi en effet de levier. Bref, ça nous donne un moins 20% sur le marché très rapidement sans vraiment de raison fondamentale. C'est ce qu'on avait d'ailleurs expliqué il y a 2 semaines. L'euphorie se solde quand même toujours quasiment par une panique. Donc pourquoi je parle de ça? Parce que finalement, la chute brutale qu'on a connue n'a pas remis en cause, si on aborde l'aspect technique, des tendances de fond. Le Bitcoin reste au-dessus des 44 000 dollars. Tant qu'on reste là au-dessus, toujours dans une tendance haussière, donc finalement ça a permis de renforcer un peu ce qu'on appelle ce support sous les pieds, cette espèce de dalle de béton qu'on a encore un peu solidifié, si j'ai envie de dire, sur ces niveaux-là. Donc on a stoppé l'hémorragie. Pour répondre à votre question, est-ce qu'on est sorti d'affaire? Oui, le Bitcoin a pris sa respiration. Maintenant il faut quand même passer encore ce plafond qu'on a sur les 50 000 dollars et s'installer au-dessus. Donc positif oui, mais pas euphorique encore.
Bon, et on a des contrats à terme, échéance décembre. On parle beaucoup aujourd'hui sur les marchés financiers en bourse, des passages des sorcières. Ça existe aussi tout ça sur le marché crypto, Xavier, ou pas encore?
Alors, on a effectivement des options sur différentes cryptos. Et d'ailleurs, le marché est très positif pour la fin du mois de décembre avec certaines échéances, notamment sur des strikes, donc les strikes à échéance fin d'année sur le Bitcoin autour de 200 000 dollars. Donc, les opérateurs, en tout cas sur le marché des options, et quand même, sont très, très optimistes.
Ouais. To the moon, comme on dit dans l'univers des crypto-monnaies. Vous aviez parlé il n'y a pas très longtemps, Xavier, de la capitalisation totale comme repère de tendance sur le marché, parce que le Bitcoin n'est plus la seule et unique crypto-monnaie, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres indicateurs que la capitalisation totale sur lesquels on pourrait se baser pour mesurer la puissance ou le potentiel d'une crypto?
Alors effectivement, c'est vrai que le Bitcoin, même s'il est dominant, entre guillemets, parce que ça reste le number one pour le moment, mais c'est vrai que sa dominance était à 70% au début d'année. Aujourd'hui, on est à 40%. En fait, c'est les niveaux qu'on avait déjà connus fin 2017. Tout le monde se souvient quand c'était l'emballement juste avant Noël. Tout s'était emballé pour finalement après sombrer un peu pendant quand même un an et demi. Donc, il peut redevenir un petit peu plus dominant, mais pour le moment, clairement, c'est plus lui qui mène la danse. Alors, même si effectivement, si on a une correction générale sur le marché, le Bitcoin va suivre et inversement vis-à-vis des altcoins, mais il y a des notions de sous- et surperformance, comme par exemple vis-à-vis de l'Ethereum. Beaucoup parlent de flipping, c'est-à-dire l'Ethereum qui, à long terme, va peut-être passer au-dessus de la capitalisation du Bitcoin, en tout cas en termes de valorisation, parce que plus de projets, plus de développement, comme on l'a vu dans cette émission avec Arbitrum récemment. Et il y a un indicateur qui peut être l'Ethereum contre le Bitcoin, qui s'appelle ETH-BTC, qui nous montre finalement que depuis le début du mois de septembre, l'Ethereum fait mieux que le Bitcoin de 15%. Il fait 30% de mieux. L'Ethereum fait 30% de mieux face au Bitcoin depuis le début du mois d'août. Et c'est une tendance qui s'est accélérée déjà depuis le mois d'avril, qui s'est encore accentuée donc depuis le début du mois d'août. Donc capitalisation totale pour le sentiment de marché. La dominance, ça peut être aussi intéressant. Et peut-être plus spécifiquement ETH-BTC pour mesurer la sous-performance et sur-performance du numéro 1 vis-à-vis du numéro 2.
Bon, on parlera des autres cryptos également tout à l'heure. Xavier, vous restez avec nous. Dans ce rendez-vous, on fait aussi, dans ce rendez-vous des pros des cryptos, chaque vendredi, on fait aussi des suivis de dossiers. Ouais, on lâche pas les sujets évoqués dans les épisodes précédents. On avait parlé de la blockchain Solana. Eh bien, cette blockchain a rencontré un petit souci cette semaine. Elle n'était pas fonctionnelle et donc les transferts sont restés bloqués pendant plus de 12 heures jusqu'au redémarrage. Claire, ça a dû faire un drôle d'effet aux habitués de Solana. On l'imagine, qu'est-ce qui s'est passé?
Ah oui, alors ce qui s'est passé, c'est une sorte de surchauffe ou de surcharge du réseau. Il faut savoir que la blockchain Solana, en théorie, elle peut aller jusqu'à 50 000 transactions par seconde, ce qui est déjà plutôt un bon score pour une blockchain. Mais là, le PDG de Solana Labs a parlé d'une surcharge qui serait montée jusqu'à 300 000, 400 000 transactions par seconde, donc quelque chose de très très élevé. A priori, ce qui aurait causé ça, c'est une levée de fonds qui s'est déroulée sur un échange décentralisé basé sur Solana, et donc il y a eu un certain nombre de bots. Donc, vous savez, ces robots automatisés qui font des transactions sans avoir besoin d'intervention humaine. Et donc, ces bots ont lancé beaucoup, beaucoup de transactions. Et tout simplement, ça a fait planter le réseau. Et donc, effectivement, on s'est retrouvé sans accès à Solana. Il y a dû avoir un redémarrage par les validateurs, donc ils se sont réunis sur un Discord pour discuter de la remise en marche du réseau. Et quand on prend un peu de recul, on voit que c'est toujours le même dilemme quand on crée un réseau, de concilier sécurité, décentralisation, scalabilité. Et ce qu'on voit avec Solana, c'est que cette scalabilité, alors qui est théorique, mais qui est en tout cas théoriquement plus élevée que d'autres blockchains, se fait un peu au détriment de la décentralisation, par exemple, puisque quand on regarde les statistiques, c'est une blockchain où les jetons sont encore détenus par principalement les investisseurs du début, les VC, c'est pas encore extrêmement décentralisé.
Et oui, la scalabilité, c'est la mise à l'échelle, la capacité à gérer toutes ces transactions, vous le disiez.
Exactement.
Mais ça pose en face le problème de la sécurité.
C'est toujours un compromis.
Hein. Oui, bien sûr. Même si les choses sont finalement rentrées dans l'ordre, on le rappelle, c'est un tournant dans l'histoire de Solana. Est-ce que ce qui s'est passé, Owen, est grave?
Alors, c'est drôle, mais on pourrait très bien répondre oui et on pourrait très bien répondre non aussi à la même question. Oui, dans le sens où c'est l'une des grosses blockchains d'infrastructure aujourd'hui. C'est l'un des moteurs blockchain les plus connus. C'est la 7e plus grosse crypto-monnaie au monde. On parle de 50 milliards de dollars de valorisation. Donc, naturellement, oui, c'est une grosse blockchain et tout le monde en a parlé. C'est comme ça qu'on voit d'ailleurs le degré d'importance quand il se passe quelque chose dans le monde de la blockchain. Après, ce qu'il faut rappeler, c'est que la technologie Solana est en bêta. C'est-à-dire qu'on est en train de proposer aujourd'hui, on en parlait la dernière fois, le fameux combat des blockchains d'infrastructure. Toutes les blockchains proposent leur méthode, leur niveau de sécurité, leur niveau de scalabilité, en espérant un jour devenir un standard, même si on en avait discuté, on s'est rendu compte que comme toutes les blockchains communiquent ensemble, ce ne sera pas un monopole un jour, mais ce sera bien un oligopole. Il y aura quelques grosses technologies que tout le monde va finir par utiliser. Alors oui, c'est grave que quelque chose d'aussi gros s'arrête, mais j'ai envie de dire tant mieux, et que ça arrive maintenant. C'était déjà arrivé à Solana, il y a quelques semaines. Mais Avalanche, qui est une autre blockchain d'infrastructure, avait eu un problème similaire. Il y a des Layer 2, donc des secondes couches du réseau Ether, qui ont planté également. C'est naturel. Dès qu'il y a une nouvelle technologie qui est très utilisée, c'est au début que l'on essuie le plus de plâtre, et donc autant que ça arrive aujourd'hui, que dans 10, 15 ou 20 ans, si tout le monde se base sur une de ces technologies, là, ça pourrait être catastrophique. Aujourd'hui, tout le monde s'y attend. Quand on construit sur une technologie aussi jeune, on va avoir des problèmes qui n'étaient pas là avant. Mais comme toute technologie, l'apprentissage se fait par incrémentation. Ces erreurs ont permis de corriger et de faire en sorte que dans le protocole, ce ne soit plus possible à l'avenir. Et donc Solana est plus fort aujourd'hui qu'il l'était hier. Et c'est pour ça que Bitcoin est si fort.
Quand il y a un pain, mieux vaut tôt que tard. Xavier Fenot est toujours avec nous. Vous l'aviez recommandé, Solana, avant l'été. On s'en souvient très bien ici. Vous vous étiez mouillé comme à chaque fois d'ailleurs. Après ce qui s'est passé, est-ce que vous continueriez, est-ce que vous récidiveriez pour conseiller l'investissement en Solana, en rappelant que c'est de la diversification évidemment en termes de placement?
Bah oui, comme l'a dit effectivement Owen, dans un processus de valorisation, on est encore 10 fois moins que sur l'Ethereum. Alors, on parle de d'Ethereum killer. Alors, c'est vrai que c'est pas la plus punchy depuis quelques jours. Elle a explosé depuis le début de l'année. Mais là, on est plutôt dans une phase hésitante. Donc, peut-être plutôt rentrer par palier pour essayer de prendre le train en marche, plutôt que de rentrer finalement en panique acheteuse, gros, lorsque voilà, tout le monde en parle, machin. On a un espèce de phase de consolidation qui est en train de se mettre en place. Donc, on va plutôt attendre rentrer par palier, plutôt attendre un repli pour reprendre le train en marche, hein, qu'on ait déjà un pied ou pas dedans, plutôt autour des 80-100 $. Ça peut être intéressant pour mettre un pied à l'étrier.
Bon, et on rappelle
qu'il y a encore beaucoup de potentiel.
Le seul argent bien investi sur les cryptos, c'est l'argent dont vous n'auriez pas besoin par ailleurs. Ça peut progresser, évidemment, et puis c'est quand même de la prise de risque. On parle donc bien de diversification. Cette semaine, la Chine fait jaser. La Chine fait jaser, c'est pas facile à dire, je l'ai dit deux fois. En bourse, l'ombre chinoise jette une obscurité importante en ce moment sur le potentiel des indices. On a un ralentissement de la Chine et une mainmise croissante du gouvernement en Chine sur un certain nombre de secteurs. Et les cryptos avaient pris sévère, avaient pris cher en premier, peut-être les cryptos, avec, c'est vrai, une restriction sur le minage annoncée avant l'été. Et puis le yuan numérique aussi, sur lequel la Chine est en train de travailler, de fabriquer, de créer des solutions à grande vitesse. Elle a sorti, Claire, ça y est, la Chine, son application pour utiliser le yuan numérique avec des fonctionnalités comme les smart contracts, ce qui rend le yuan numérique totalement programmable, accessible aux commerçants, à une petite partie aussi de la population. C'est quand même pas mal et il semble en avance sur nous, les Chinois. On en est où, nous, en Europe? On a le yuan numérique là-bas, sur l'euro numérique, dont Christine Lagarde nous avait dit juste avant l'été que le chantier commençait à être lancé. On en est où sur ce chantier de l'euro numérique?
Alors, je suis désolée, je ne vais pas avoir beaucoup plus d'informations que la dernière fois qu'on en a parlé, parce que les travaux sont censés se lancer et puis ça va prendre quelques années. Hein. Ce qui avait été annoncé, c'est sans doute pas d'euro numérique avant 2025, 2026, peut-être même 2027.
Ce ne sera pas pour les Jeux Olympiques alors.
Donc, non, on n'aura pas d'euro numérique pour les Jeux Olympiques. Effectivement, l'Europe est, on va dire qu'on prend notre temps par rapport aux Chinois. Maintenant, il y a toujours cette question. Quand on dit en avance, ça signifie qu'on pense que c'est bien de lancer un euro numérique. Donc, il y a toute cette question déjà. C'est à quoi va ressembler l'euro numérique? Est-ce que c'est bien d'avoir une monnaie de banque centrale? Les États-Unis sont en train de finalement hésiter à se lancer sur des expérimentations de monnaie de banque centrale. Ils se disent que peut-être que les stablecoins seraient un meilleur moyen de poursuivre cette hégémonie du dollar. Donc voilà, on n'est pas en avance par rapport à la Chine, mais en même temps, moi je suis pas sûre que...
Vous avez un doute sur le lexique en avance, c'est pas le bon lexique à vos yeux.
En fait, on ne sait pas aujourd'hui si c'est la bonne solution de faire un euro numérique. En parallèle, on voit aussi qu'on adopte en Europe un discours qui est peut-être assez sceptique sur les crypto-monnaies. On a vu récemment circuler une vidéo de Christine Lagarde qui dit « les crypto-monnaies ne sont pas des monnaies », elle ajoute même « full stop » après, donc ça a fait beaucoup rire sur Twitter. Et donc on se rend compte que l'ambition, c'est de réussir à lancer cet euro numérique, mais en parallèle de ne pas trop laisser les crypto-monnaies devenir des vraies monnaies, parce que c'est ça sans doute la crainte de nos institutions.
C'est important pour l'Europe, Owen, de rentrer dans cette course aux devises numériques. L'enjeu est tellement énorme que, oui, il faut essayer de ne pas cumuler les retards face à la Chine, par exemple.
Une chose qui est certaine, c'est que c'est dur aujourd'hui de quantifier à quel point c'est important. C'est tout comme Internet au départ. On pouvait dire, est-ce que c'est important de se lancer sur Internet ? Aujourd'hui, on se rend bien compte qu'un pays ne peut plus avancer sans cette technologie. À l'époque, Internet, ça voulait tout et rien dire. Ben, c'est comme la blockchain. Oui, c'est important, et je pense que la blockchain est une technologie qui permet de résoudre de nombreux problèmes qui sont connus aujourd'hui, mais dont nous n'avons pas la solution. Donc je pense que c'est une technologie qu'il faut comprendre et qu'il faut utiliser pour régler ces problèmes. À quel point ça va être un tournant pour l'avenir, ça va se définir dans les années qui viennent. Quoi qu'il arrive, c'est une technologie qui est très intéressante et qui est utilisée par de plus en plus de monnaies en général. Tout le monde se penche dessus, et maintenant que ça a été totalement ou du moins que c'est en cours de régulation, on commence à avoir les institutions, les particuliers, les petites et moyennes entreprises qui s'y intéressent. Donc quand on voit l'intégralité de l'écosystème financier et économique qui se tourne vers cette technologie, on comprend bien qu'il faut avoir une certaine appétence technologique aussi et commencer à comprendre comment elle fonctionne. Maintenant, est-ce que c'est important? Oui, j'en suis persuadé. Est-ce que c'est important tout de suite? Comme on vient de le voir, à cette échelle-là, c'est des projets et c'est des chantiers de 2, 3, 4 ans. Par contre, vu comme la Chine est en avance là-dessus, il suffit que les États-Unis prennent une position rapidement sur un dollar numérique et quelque chose me dit qu'on va avoir une accélération fulgurante du géant européen qui devrait tout de suite se positionner une fois qu'il aura pris conscience de l'importance que ça a et des positions surtout des autres géants qui sont déjà dans cette partie.
Oui, nos deux poissons pilotes, la Chine et les États-Unis, qui montent en rivalité de plus en plus, peut-être aussi sera-ce le cas sur cette question des devises numériques. Et puis l'Europe qui, on l'a vu sur les sous-marins cette semaine, forme de prise de conscience, devra à un moment peut-être prendre conscience aussi que les devises numériques sont un enjeu en bien ou en mal. On a compris clair que la devise numérique, l'euro numérique n'est pas bien sous tous les aspects.
Ouais. En fait, tout dépend comment il est fait. On pourrait avoir différentes stratégies. On pourrait se dire, ce qu'on veut, c'est avoir un euro numérique sur le même modèle que le yuan numérique. On pourrait aussi se dire, finalement, ce qu'on veut, c'est favoriser la création de stablecoin euro sur Ethereum et sur d'autres blockchains. Donc, il y aurait différentes stratégies possibles. L'euro numérique, pour moi, ça n'est qu'une stratégie.
On va suivre tout ça attentivement. Dans un instant, Xavier Fenot va se mouiller et vous dire quelle crypto présente encore, préparez-vous Xavier, à ses yeux, un beau potentiel pour la suite. Et là, toute la communauté est à l'affût sur BFM Business. D'abord, cette formule qui a marqué la semaine. Cash is trash. Le cash, c'est une poubelle. Ce sont les mots de Ray Dalio, le CEO de Bridgewater, un fonds d'investissement avec quand même 140 milliards de dollars sous gestion. Le cash, c'est une poubelle. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? À quoi il faisait référence, Claire?
Il fait référence au fait qu'on a quand même pas mal imprimé de monnaie l'année dernière, notamment la Fed. Quand on regarde un peu les statistiques, on voit qu'en 2020, entre mars et novembre 2020, la masse monétaire aux États-Unis a augmenté de 25%. Et donc, il fait référence au fait que la valeur de certaines monnaies fiat, particulièrement le dollar, est plutôt en train de baisser. On va avoir une inflation qui va revenir avec des taux aux États-Unis de 4 à 5%. Et donc, lui, il dit ça tout simplement dans une logique aussi d'investissement. Aujourd'hui, les milliardaires, ils n'ont pas tellement intérêt à avoir de l'argent en cash, ils ont plutôt intérêt à avoir des actifs. Et donc, pour lui, c'est tout à fait logique de s'orienter, en tout cas en partie, vers certaines crypto-monnaies, plutôt que de laisser sa fortune en
cash. D'accord, ce n'est pas juste pour le plaisir de la rime, cash is trash, qu'il l'a dit, c'est pas
un
poète.
Je ne pense pas, non, je ne pense pas.
C'est un financier. Si je vous demande si les crypto-monnaies seraient une solution, justement, vous allez me dire oui, on imagine, ouais, même si tout le monde n'a pas encore dans sa poche un portefeuille crypto aujourd'hui.
Eh bien, comme beaucoup de mes réponses, pas tout à fait. C'est-à-dire que les cryptos peuvent être la solution. Encore une fois, toutes les crypto-monnaies n'ont pas toutes les valeurs du Bitcoin. Si on se retrouve avec une crypto-monnaie dont les fondateurs peuvent en imprimer autant qu'ils veulent, et elles existent, elles sont nombreuses, ces crypto-monnaies, à ce moment-là, la crypto-monnaie n'est pas la solution. Par contre, le Bitcoin, par exemple, c'est une monnaie dont la supply, donc le nombre total de Bitcoin, est déjà définie et ne sera pas limitée. Donc, la technologie de la cryptographie, asymétrique, et donc la blockchain et tout ce qu'on peut créer avec cette technologie, peut être la solution. Encore une fois, on pourrait très bien créer une monnaie qui respecte du moins la définition de certains qui font que les crypto-monnaies n'en sont pas, qui pourrait très bien être limitée avec une supply qui n'augmenterait plus. La solution peut venir des crypto-monnaies, mais elle ne réside pas forcément en cette technologie.
On a tous regardé Twitter cette semaine, les propos de Christine Lagarde, qui expliquait donc que les crypto-monnaies ne sont pas des crypto-monnaies full stop, a-t-elle dit. Bon, il y a eu dans la communauté hein, des petits rires moqueurs, c'est vrai, mais comme souvent, il y a eu aussi un bug quand même cette semaine dans l'univers crypto qui a fait beaucoup réagir aussi sur les réseaux. Une fake news qui a fait énormément de bruit, celle de Walmart, la plus grande chaîne de grande distribution au monde, qui, Walmart, accepterait le Litecoin, on dit ça comme ça, Litecoin, voilà. Quand il y a une flaque, je tombe toujours dedans. Donc, Walmart qui accepterait le Litecoin en tant que monnaie de paiement dès octobre. C'était une fake news. Qu'est-ce que le Litecoin et pourquoi cette fake news, lorsqu'elle est sortie, a pu paraître plausible, Claire?
Alors, le Litecoin, donc, c'est une crypto-monnaie, une des plus grandes crypto-monnaies. Elle ressemble beaucoup à Bitcoin, en fait. Dans l'écosystème, on la voit souvent comme une forme de réseau de test aussi, qui permet de tester des choses avant que ça n'arrive sur Bitcoin. Alors, je ne suis pas sûre que la news était vraiment crédible. Alors, c'est toujours facile de le dire a posteriori, hein, c'est vrai. Mais c'est très improbable, en fait, de voir Walmart dire « on accepte comme moyen de paiement telle crypto-monnaie particulière ». Ils auraient dit « on accepte Bitcoin comme moyen de paiement » ou « on accepte 5 ou 10 crypto-monnaies comme moyen de paiement ». Pourquoi pas ? Mais c'est vrai qu'un positionnement aussi catégorique de Walmart sur une crypto-monnaie en particulier qui n'est pas dans qui n'est pas la plus grande ou qui n'est pas même dans les trois plus grandes, c'était très surprenant.
Et donc, quand vous avez vu la nouvelle, sur le coup, vous avez dit « waouh » ou vous avez dit « fake news » ?
Alors, en fait, ça a duré seulement 15 minutes, hein, ouais. Entre le moment où la nouvelle est apparue et le moment où elle a été démentie. Donc, n'étant pas sur Twitter,
c'était en train de déjeuner à ce moment.
Voilà, bon. Je n'ai vu la nouvelle qu'après le démenti. Donc, j'ai pas pu me faire ma propre opinion quand elle est arrivée. Mais c'est vrai que ça paraissait un peu absurde. Et ça a eu l'air vrai parce que la fondation Litecoin s'est exprimée et a retweeté le faux communiqué de presse qui ressemblait à un communiqué de presse de Walmart. Et donc, tout le monde y a cru parce qu'on a cru à ce que disait la fondation. Et donc, ça a été retweeté par de nombreux journalistes, de nombreux médias. Et donc, ça a fait largement monter le cours. Puis, il est brusquement redescendu quand on a su que c'était faux.
Ah, la pollution, le bruit des réseaux sociaux et ces fake news qui prolifèrent de plus en plus crédibles. Parce que sur la forme, les arnaqueurs, hein, voilà, les voleurs ou les menteurs parviennent à trouver, à imiter de mieux en mieux les institutions.
C'est de la manipulation de cours, hein, comme il pourrait y en avoir sur d'autres actifs.
Et exactement. Et c'est pour ça que c'est grave. Quelles conséquences a eu cette fake news, Owen?
Alors, en une ligne, la conséquence, le cours du Litecoin est monté très très vite. Et quand on a eu le démenti, il est redescendu aussi vite. Et donc, ça fait des liquidations, des traders qui étaient avec des effets de levier, parce que c'est une grosse crypto-monnaie, qui ont pu se faire liquider dans un sens ou dans l'autre, et certains qui ont pu profiter de la vague. L'histoire est assez folle. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une personne qui a fait un faux communiqué de presse sur Walmart, d'accord, et qui l'a envoyé à plein de gros médias, en se disant, on n'est pas à l'abri d'un coup de chance. Sur un malentendu, ça passe. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont l'habitude de ce genre de choses, mais il y a deux médias qui sont tombés dans le panneau, et dès qu'il y en a un qui publie, dès qu'il y a l'autre qui a un doute, il publie également, parce que du coup, il est sécurisé par le premier. Et ce qui s'est passé, c'est que la fondation Litecoin, à ce moment-là, trois community managers sur leur compte Twitter, deux qui dormaient. Du coup, le dernier, il arrive, il a un gros doute sur la position, il n'arrive à joindre personne parce que les équipes sont off et ne sont pas disponibles, et il voit la plupart des gros médias de ce monde qui disent que Walmart va accepter Litecoin. Finalement, c'est Litecoin Foundation qui a elle-même retweeté cette actualité. Et là, sur un malentendu, on fait exploser le prix d'une crypto-monnaie. Et les conséquences, c'est donc forcément ce pump and dump, et indirectement, les régulateurs du monde entier qui disent « Attention, c'est dangereux, vous vous rendez compte de ce qui peut arriver sur un écosystème naissant, sur une technologie, quand il y a un alignement des planètes et des conséquences sur des... Naturellement, il peut y avoir ce genre de choses qui arrivent. »
Et voilà, il faut toujours garder la distance. On le disait la semaine dernière, ce qui éblouit parfois aveugle. Attention, et vous êtes là, nos experts, hein, on a choisi sur BFM Business de s'entourer des meilleurs, hein, pour parler des crypto-monnaies, parce que justement, c'est un univers quand même assez glissant sur lequel il faut des... Voilà, une expertise, et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et on vous remercie de nous accompagner chaque vendredi dans ce rendez-vous des pros des cryptos. Xavier, toujours avec nous au téléphone. Xavier, vous dormez pas, vous? Contrairement
non,
au...
pas du tout.
D'accord, bon, vous me rassurez, contrairement à la fondation Litecoin. On a parlé de Litecoin, Solana, du Bitcoin également tout à l'heure, au tout début. Est-ce qu'il y a des cryptos qui se démarquent en ce moment pour ceux qui souhaitent se diversifier, Xavier?
Oui, il y a effectivement toujours un peu d'activité. C'est vrai qu'il y a deux semaines, on avait parlé notamment des phénomènes de rattrapage. Et il y a, donc Solana, on en a parlé, et il y a les fameuses qu'on appelle ETH Killer. Donc, c'est des projets qui sont à peu près similaires ou proches, en tout cas, de l'Ethereum. Alors, pour le moment, on est très loin de faire de l'ombre au numéro un dans ce domaine, hein. Donc, il y a des phénomènes de rattrapage, de diversification peut-être même d'ailleurs des opérateurs. Alors, il y a par exemple Avalanche, alias Avax, qui a fait donc des nouveaux records historique aujourd'hui.
C'est pas un vaccin, on précise, c'est une crypto, oui. Avax, d'accord.
Avax.
Ah, mais pour ceux qui. Oui.
On a également Polkadot, alias Dot, qui a fait 250% depuis début juillet, donc qui est valorisé pour elle 36 milliards de dollars. On a également Cardano, numéro 3 des cryptos. Alors, je sais qu'elle suscite beaucoup de critiques. Il y a des clans anti-Cardano, mais elle est quand même numéro 3. Elle a réalisé des nouveaux records historiques au début du mois. Donc voilà, ça peut permettre en fait d'avoir des diversifications, des reprises. Alors, remplacer l'Ethereum, pas encore, hein, il y a beaucoup de chemin. Mais c'est vrai qu'il y a de quoi s'intéresser à ses concurrents. Alors attention, hein, toujours pas de levier. Si vous parlez du Litecoin, il y a eu quand même 20 millions de dollars de positions qui ont été liquidées, donc en une demi-heure, une heure, ce qui est énorme. Surtout pas de levier. Investir plutôt par palier. Et surtout beaucoup de yoga pour éviter d'être constamment dans l'émotivité, euphorique ou panique. Et ça permet de prendre un petit peu de recul sur ces gros mouvements qu'il y a et cette volatilité qu'il y a toujours sur les cryptos.
Toujours garder du recul et de la distance. Il y a un auditeur qui nous écrit sur Twitter et qui me reprend, puisqu'au début j'ai parlé de l'Ethereum en me disant il faut dire l'Ether. Il a raison, Owen, il faut dire Ether, pas Ethereum. Ça dépend de quoi on parle. Je sens que vous allez encore faire l'éloge de la nuance là.
Ethereum, c'est la technologie, c'est la blockchain. Ouais. Les actifs qui circulent à l'intérieur sont des éthers. Le truc qui est compliqué pour vous, pour le comprendre, c'est juste que sur Bitcoin, Bitcoin avec un grand B, c'est la technologie. Bitcoin avec un petit B, ce sont les actifs à l'intérieur. Voilà pourquoi, de base, quand on sait que c'est la technologie Ethereum, on dit les Ethereum, tout simplement.
Je n'aurai plus aucune excuse. Merci à tous les trois de nous avoir accompagnés. Owen Simonin, alias Asher, avec un H au début, sa chaîne YouTube et sa société Just Mining, bien sûr. Merci beaucoup, Owen, d'être passé nous voir en plateau. Tiens, cette semaine, Claire Balva nous accompagne chaque vendredi en plateau. Parisienne, Claire. Et à nos côtés, donc, toutes les semaines, cofondatrice de Blockchain Partner, directrice blockchain et crypto chez KPMG France. Merci beaucoup, Claire. Bon week-end. Et un bon week-end aussi à Xavier Fenot, qui nous accompagne très régulièrement pour Interactive Trading. Bonne soirée à tous. Le CAC est toujours en très légère baisse dans un instant. Le club, bien sûr, et des perspectives sur ces marchés financiers si vous souhaitez y investir. À tout de suite sur BFM Business.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.